Des clés pour grandir. Une émission pour les parents d'adolescents proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de la semaine dans Des clés pour grandir. Au micro, vous allez découvrir Julie Lerouge, jeune femme de 25 ans, étudiante en théologie et en philosophie, fondatrice du festival Amène-toi. Elle consacre beaucoup de temps à témoigner dans les établissements scolaires et je vous propose de découvrir Julie Lerouge qui donc nous écoute par téléphone. Bonjour Julie.
Bonjour.
Bienvenue dans ce rendez-vous des clés pour grandir. Aujourd'hui, vous êtes une jeune femme de 25 ans. Je voudrais, dans ce rendez-vous de la semaine, en quelques minutes, que vous partagiez à tous les parents, à tous les grands-parents qui vous écoutent, hein, votre conversion, une conversion que vous avez vécue. Et ça a été le tournant dans votre jeune parcours à l'âge de 15 ans. On vous écoute et merci. Et merci de votre enthousiasme, merci de votre joie, merci de vos actions aussi missionnaires.
Mais merci. Non, mais alors du coup, voilà, je me suis convertie à l'âge de 15 ans. Donc je suis issue d'une famille où du côté de mon père, on a eu une éducation, il a eu une éducation assez rigide au niveau de la foi, avec un courant plutôt pensant que si on fait mal les choses, Dieu punit et il sauve aux bonnes actions. Donc c'est un courant assez difficile, assez dur. Donc papa a quitté la foi quand il a pu partir de la maison. Et puis du côté de ma mère, plutôt quelque chose autour de la réussite sociale, de l'apparence, il faut tout bien faire, il faut avoir des hauts postes, il faut réussir sa vie. Et la réussite considère avoir de l'argent et une situation assez, assez élevée. Donc plutôt un dieu inexistant ou plus ou moins, en cas de problème, il peut être quelque part, mais bon, pas sûr. Et donc nous, on a fait notre baptême avec mes petits frères, on a été baptisés, on a fait notre première communion, profession de foi, on a fait un peu dans l'ordre jusqu'à ce qu'on puisse choisir, parce que sinon, évidemment, ça faisait mal du côté de la famille de papa, vieille noblesse française, disons, quitter la foi comme ça, et donc il fallait tout bien faire. On allait à la messe à Noël et à Pâques en famille, donc on occupait un banc familial. Et voilà, donc c'était un peu les traditions, mais pas de foi personnelle et de réelle croyance. Et donc, moi j'ai continué mon petit bout de chemin, et puis très vite, au collège, j'ai commencé à vivre du harcèlement à l'école, parce que j'étais première de classe, parce que j'avais un nom d'avance, j'avais un nom à particules, donc c'était pas forcément évident tous les jours. Et donc il y avait beaucoup de stéréotypes autour de ces noms-là. Et donc tout de suite, ça m'a valu quand même beaucoup de complications. Et donc à partir de là, ça a été harcèlement à l'école, donc j'y allais la boule au ventre, je rentrais, j'étais pas bien. Et donc ça a duré pendant des mois, et voilà, tout ça parce que je voulais ni sortir avec des garçons, j'avais 11-12 ans, quoi, c'était pas quelque chose qui m'intéressait, j'avais des bonnes notes, j'étais catégorisée comme la chouchoute des profs. Et donc ça a commencé à devenir assez virulent.
Permettez-moi, vous en avez parlé à vos parents ?
Pas tout de suite, parce que j'avais peur que ça s'empire, si je le disais, parce que c'était un peu les menaces, en fait. Si tu parles, ce sera pire, si tu parles. Et en fait, du coup, il y a une culture du silence qui est entretenue vis-à-vis des victimes, et en fait, on ne peut pas vraiment s'exprimer librement parce qu'on a peur des répercussions. Et donc ça a été compliqué, donc c'était vraiment tous mes amis. Et je me souviens qu'il y avait une fille qui avait voulu me tendre la main en disant « Mais écoute, viens manger avec moi, etc. » Et en fait, elle s'est fait menacer dans la foulée de se faire couper. Si elle continuait de me parler, mais elle a persévéré et puis elle s'est pas fait taper. Enfin, c'est surtout des grands mots pour faire peur. Et en fait, à ce moment-là, il y avait l'émergence de Facebook. Et donc, en fait, il y a des choses qui ont commencé à tourner sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que mes parents ont été informés, en fait. Et donc, quand ils ont découvert, par le biais d'une amie, ils ont tout de suite dit « Mais attends, c'est grave. » Donc, ils en ont parlé à la directrice. Les choses ont pris des proportions pas possibles. Et la directrice avait considéré à ce moment-là que c'était que des problèmes d'enfants. Donc, fallait pas s'en préoccuper. Et donc moi j'étais vraiment pas bien, et puis à un moment donné il y a un mot qui a circulé où tout le monde signait sous peine de se faire, faire haïr et détester et pointer du doigt dans la cour de récréation. Et donc c'était que des insultes mises bout à bout, et tout le monde devait signer la feuille, et ensuite ils me l'ont remise. Et là moi je me suis effondrée en cours, et une prof m'a dit « Mais écoute, sors, je te rejoins plus tard ». Et donc, du coup, là, ils ont commencé à prendre le problème vraiment au sérieux parce qu'il y avait des traces écrites avec des choses vraiment pas très sympas. Et en ce moment-là, moi, vraiment, j'étais vraiment plus profond du trou. Et puis, j'ai une personne qui était la meilleure amie de ma maman qui a commencé à me parler de Jésus, en fait, dans sa vie à elle. Et donc, tous les mercredis, bah, je faisais du tennis avec son fils et du théâtre. Et donc, ben, j'ai pu commencer à parler de Jésus avec elle. Et puis, on avait des super discussions et c'était super chouette. Et au bout d'un moment, ben, elle nous a annoncé qu'elle avait un cancer de l'utérus qui s'est généralisé. Et donc, moi, je me disais, ben, OK, on va le vivre correctement. Et puis, ben, très vite, ça a commencé à prendre des proportions pas possibles et elle est décédée très rapidement. En quelques mois, elle a été emportée par ce cancer. Et en fait, là, pour moi, ça a été l'acte de rébellion en me disant, mais comment est-ce que son Jésus, qui était soi-disant tous les jours avec elle, qui pouvait tout pour elle, il a pu permettre une chose pareille? Enfin, c'est pas possible. Elle en parlait tellement avec amour, avec c'était juste beau, quoi. Et donc, moi, je suis rentrée en internat. Enfin, elle est décédée en juillet et moi, je suis rentrée en internat en septembre. Et donc, pour moi, ça commençait à être vraiment difficile. Et puis, en fait, les mois se succédaient. J'arrivais pas à faire mon deuil. J'avais un ami de collège, enfin voilà, qu'on connaissait tous, c'était le gars toujours souriant qui a décidé de mettre fin à ses jours après le nouvel an. Ça a été compliqué cette période-là et c'était vraiment difficile de voir les décès autour de soi et de se dire mais finalement il n'y a pas d'espérance et la vie elle sert à quoi en fait. Et puis à ce moment-là mes parents, ça devenait compliqué parce que mon papa avait une entreprise, a commencé à couler l'entreprise et puis en fait finalement, on se rend compte que les enfants entendent. Et donc, moi, quand je rentrais les week-ends, on sent bien quand il y a des tensions, on sent bien quand c'est compliqué. Donc, finalement, je me disais, mais moi, je veux pas voir mes parents divorcer. Enfin, voilà, c'était hyper compliqué. Personne n'avait la foi dans ma famille. On avait zéro espérance dans la vie. C'est que de l'apparence. Il faut toujours épingler un sourire. Et donc, voilà, donc moi, ça commençait à aller en se dégradant et ça allait vraiment pas bien. Et puis, à un moment donné, voilà, il y a un surveillant qui est venu me voir et qui m'a dit, écoute Julie, t'as pas l'air bien. Est-ce que tu crois en Dieu? Et là je lui ai dit, bah non, ça c'est non. Et je dis, là c'est pas possible. J'ai dit, oh, non, ça c'est impossible. Et donc lui, il commence à m'expliquer sa vie qui était bien aussi pourrie que la mienne. Et là il me dit, bah Jésus m'a sauvé. Et en fait, juste avant ça, une professeure d'histoire m'avait rattrapée à la fin du cours en disant, bah, toi et moi, on va parler, quoi. Et donc, je lui ai dit, bah non, j'ai pas envie de parler avec vous, donc non, je parle pas, donc je m'en vais. Et elle m'a dit, si, en fait, tu restes, c'est pas une question, en fait, c'est une obligation.
Ah, oui.
Et elle m'a dit, est-ce que tu crois en Dieu? Et je lui ai dit, bah non, mais c'est bon, quoi, enfin, je veux pas entendre parler de Dieu dans ma vie, ce surveillant qui m'en rajoute une couche. Et là, je me suis dit, mais pourquoi tout le monde me parle de Dieu finalement? Et puis là, ma prof m'a dit la même chose. Elle me dit, mais moi, c'est Jésus qui m'a sauvée, quoi. Et en fait, ça m'a mise en colère en me disant, mais pourquoi Jésus sauve tout le monde, mais pas moi, en fait? Il m'a oubliée, en fait. Et j'étais du coup très en colère, j'étais hyper révoltée. Et donc là, on m'a proposé de partir, de faire d'abord ma confirmation. Et donc, dans la confirmation, il y avait le pèlerinage à Lourdes. Et moi, on m'a vendu ça un peu en mode, voilà, on est entre copains, on se retrouve, on mange une pizza et c'est sympa, quoi. Donc moi, j'ai calé le truc pizza copain, mais pas le côté on va parler de Dieu pendant une heure, quoi. Et donc, du coup, bah, j'ai rejoint les cours de KT. On a obtenu une dérogation parce que j'intégrais trop tard le parcours. Et puis, en fait, on s'est retrouvés à Lourdes. Et là, à Lourdes, mais pour moi, ça a été un basculement. D'abord, le quart, j'ai cru que j'allais pas survivre.
Première étape.
Chant catho. Et je me disais, oh là là, mais ça m'étonne pas que les églises catho se vident, hein. C'est normal, hein. Faut pas s'étonner. Et donc, voilà, avec des chants, j'avais l'impression d'être dans le film, la vie est un peu tranquille, le prêtre est là. Et puis très vite, ils ont commencé à faire des chapelets et je me disais, mais purée, en plus, c'est horrible parce que c'est que des jeunes, mais en fait, ils font des trucs de grand-mère, quoi. Non, quoi. Et donc, moi, je connaissais pas les prières, donc ça m'énervait encore plus que je me disais, mais alors, vraiment, l'ennui le plus mortel du monde, quoi. Et puis, on s'est retrouvés à Lourdes, le prêtre nous explique qu'on a la messe tous les jours, donc là, je lui ai dit que ça allait faire un peu beaucoup. Et il m'a dit, bah, en fait, si tu veux pas faire comme tout le monde, bah, tu peux partir. Et donc, bah, je lui ai dit bah, que c'était compliqué pour me partir parce que j'allais pas faire du stop, donc j'allais rester et aller à la messe tous les jours. Mmh. Et puis, le dernier soir, mes amis m'ont dit, bah, écoute, voilà, on va aller à un truc la nuit, tu vas voir, c'est trop bien, on t'a inscrite, etc. Et moi, je me suis dit, mais attends, excuse-moi, qu'est-ce qu'on va aller faire samedi? C'est à 3h du mat et tout. Donc moi, dans ma
tête, on va aller faire la fête.
On va faire le mur. Super, on va faire la fête, on va faire un truc, voilà, interdit, quoi. Et là, il m'explique qu'on va aller à l'adoration. Et là, je me suis dit, mais à quel moment on va faire un truc cool et adoration dans la même phrase, ça peut marcher, quoi. Et donc, je leur ai demandé ce que c'était. Ils m'ont expliqué en disant, bah voilà, en fait, c'est Jésus qu'on expose dans un bout de pain. Et là, je me suis dit, ok, ils sont complètement fous. En plus, ceux qui croient que Jésus est dans un bout de pain, alors là, c'est vraiment débile. Et j'avais fait ma communion, hein, c'est pour dire, comme quoi, j'ai pas retenu vraiment les cours. Et en fait... ils m'ont traîné là-bas, ils m'ont réveillé en pleine nuit, ils m'ont traîné là-bas. Et puis, du coup, ils m'ont dit de prier, donc ils m'ont laissé toute seule, c'était en silence. Et en fait, j'ai commencé juste à dire à Dieu, bah écoute, si t'existes, bah, c'est le moment ou jamais. En fait, tu te manifestes maintenant et je te donne ma vie, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu ne te manifestes pas, bah, depuis le départ, j'avais raison et c'est vraiment débile ce truc. Et voilà, et je me suis endormie devant le Saint-Sacrement en faisant cette prière. Et puis au bout d'un quart d'heure, j'étais vraiment réveillée par mes larmes. Sauf que moi, on m'a toujours...
Réveillée par vos larmes.
Ouais.
Ah oui.
Alors que moi, on m'a toujours dit que pleurer, c'était pour les faibles, quoi. Donc je me disais, mais pourquoi je pleure comme ça gratuitement en plus? Et je pleurais. Et en fait, j'ai eu le sentiment d'être aimée, mais plus que tout au monde. Et à partir de là, vraiment, j'ai juste entendu « Ne t'inquiète pas, je suis toujours avec toi ». Et à partir de là, j'ai jamais pu douter une seule seconde que Dieu était là, que Jésus était là, qu'il était là pour moi, qu'en fait, il m'aimait plus que tout au monde, malgré mes blasphèmes contre lui, malgré... En fait, il m'aimait.
En fait, malgré vos colères, malgré toutes vos rébellions, Jésus, dans ce Saint-Sacrement, et puis dans ce sanctuaire de Lourdes, donc grâce mariale, vous parlez au cœur et vous disiez « Ne t'inquiète pas, je suis toujours avec toi ». Julie Lerouge, je vous propose de vous retrouver dès la semaine prochaine. Nous restons avec vous à Lourdes, au pied du Saint-Sacrement, et on entend aussi avec ces paroles qui ont débordé de votre cœur que Jésus est venu visiter votre cœur et vous rappeler qu'il était bien présent dans ce très Saint-Sacrement. Julie Lerouge, à la semaine prochaine.
Oui.
Merci.
À bientôt. Au revoir.